Vous écoutez France Musique.
Bonjour à toutes, bonjour à tous, bienvenue dans le dernier matin des musiciens de l'année. Eh bien oui, en le disant, on ne peut s'empêcher de trouver que le temps passe vite et que de semaine en semaine, la musique qu'on dit ancienne est la surface qui révèle le plus les reflets de notre monde d'aujourd'hui. C'est cette mémoire ancienne européenne qui très souvent est beaucoup plus proche de nous que les musiques du 19e siècle par exemple. C'est donc cette mémoire musicale que nous questionnons chaque semaine en compagnie des musiciens, des ensembles, tous chercheurs d'absolu ou absolu experts. Et donc pour finir l'année, comme ma fin est mon commencement et que selon les Saintes Écritures, les derniers seront les premiers, on n'a qu'à se dire que cette émission n'est que le commencement d'autre chose. Elle est placée aujourd'hui sous le signe de l'organetto et du clavicymbalum. Guillermo Pérez, David Catalunya, l'ensemble Tasto Solo, mais aujourd'hui en duo, bienvenue à eux et bienvenue à vous.
Qu'est-ce que vous attendez? Qu'est-ce qui se prépare? Qu'attendez-vous? Je n'en sais rien. Je crois que la qualité d'un photographe doit être l'espoir du miracle. Contre toute logique, c'est ça.
L'orgue portatif gothique n'est peut-être pas seulement l'apanage du XIVe et du XVe siècle. Ce qui va nous intéresser ce matin, entre autres, c'est de vous présenter l'histoire de deux instruments, l'organetto, l'orgue portatif, et le clavicymbalum, en commençant par leur mort supposée, c'est-à-dire au début du XVIe siècle. Une renaissance juvénile qui prépare l'éclosion du répertoire en Angleterre des virginalistes, des pièces pour clavier éditées par Attignan en France, des premiers Richard Carr pour clavier de Antonio Valente à Naples, ou alors même des merveilles ibériques de Cabezón que nous verrons. Mais pour questionner ces claviers portables, leur répertoire, leur fonction, leur utilisation, j'ai l'immense plaisir de vous accueillir, Tasto Solo, à commencer par vous, Guillermo Pérez. Bonjour.
Bonjour.
Comment allez-vous?
Très bien.
Vous avez bonne mine, hein, parce que je crois que vous habitez dans le sud, c'est ça?
Oui. Les journées ensoleillées sont là, donc...
Dans quel coin?
Près de Toulouse, à Montauban.
À Montauban. David Catalunya, bonjour.
Bonjour.
De nouveau bienvenue.
Merci.
Vous êtes venu avec quel instrument aujourd'hui? C'est pas le clavicitarium, parce que ce serait plus volumineux, c'est le clavicymbalum.
C'est le clavicymbalum.
À marteau.
À marteau, exactement.
Alors Guillermo Pérez, le nom de Tasto Solo?
Alors le nom de Tasto Solo, déjà c'est une terminologie qu'on retrouve dans les baroques, c'est quelque chose qui fait référence à une période plus tardive, bien plus tardive que la musique qu'en réalité nous faisons, qui est surtout au Moyen-Âge et tout début de la Renaissance, mais qui pour différentes raisons, qui évoquait aussi un peu la réalité de l'ensemble, d'une part si on prend la signification vraiment en premier sens, donc seulement clavier, voilà, c'est un ensemble dédié vraiment au monde des claviers avec une idée, une esthétique vraiment très instrumentale. Et puis aussi, ce qui veut dire la terminologie dans les baroques, le tasto solo, l'idée que quand on va réaliser un accompagnement avec un instrument à clavier, quand on retrouve le moment écrit tasto solo dans la partition, ça veut dire qu'il ne faut pas harmoniser, qu'on va juste jouer une ligne, donc quelque chose qui devient l'exception. Pour nous, c'est quelque chose qu'avec les claviers du Moyen-Âge, ça fait partie de notre normalité. Avec un clavier, jouer seulement une ligne, une mélodie, comme quelque chose de tout à fait normal par rapport au développement polyphonique. Voilà.
Comment êtes-vous arrivé à jouer l'organetto? C'est quoi votre histoire?
Mon histoire, c'est une accumulation de circonstances, je dirais. Moi, j'étais pianiste et flûtiste à bec. Je suis parti faire un perfectionnement de flûte à bec en Italie. avec Pedro Memesdorf. C'est là que j'ai découvert le répertoire du Moyen-Âge, qui m'a vraiment beaucoup, beaucoup intéressé. Et c'est là aussi que j'ai découvert l'existence de ces petits orgues qui, du coup, m'a permis de mélanger les deux instruments avec lesquels j'avais fait mon parcours, le piano, donc le monde du clavier.
Et puis la flûte avec les tuyaux.
Voilà, la tuyau et surtout le langage du vent, de l'air, de travailler, de pouvoir maîtriser des dynamiques, de phraser vraiment avec l'air.
Alors on vous met, je le dis pour les auditeurs et les auditrices, des photos dans le studio justement de ces deux instruments, l'organetto et le clavicembalum à marteau. David Catalunya, votre histoire?
Bon, mon histoire, c'est un peu similaire à celle de Guillermo parce que c'est toujours une accumulation de circonstances. Quand j'étais petit, mon rêve c'était toujours de jouer du clavecin. Et alors, j'ai commencé à étudier le clavecin et c'était à Barcelone aussi avec Pedro Memesdorf que j'ai découvert le répertoire médiéval. Et alors, j'ai découvert qu'il y avait aussi des clavecins avant les clavecins. Et donc, ça m'intéressait beaucoup et donc j'ai commencé ma carrière en tant que médiévaliste. Alors, j'ai commandé mon premier instrument en 2002 ou 2003. Donc, l'instrument, il était fini en 2003. Donc, c'était mon premier petit clavicembalum médiéval. Et donc voilà, c'était comme ça que ça a tout commencé. Après, j'ai rencontré Guillermo, on a commencé à travailler ensemble et c'est comme ça que tout s'est développé.
Alors on va tester un petit peu les limites justement esthétiques et c'est ça qui est intéressant dans votre démarche Tasso Solo parce que bien sûr, il y a la musicologie, ça c'est sûr, mais mise au service d'un projet artistique qui teste ses limites. Ses limites, c'est on va vous entendre, Tasso Solo, dans du répertoire anglais, globalement, contemporain d'Henri VIII. Donc nous serions dans les années 1510, 1530, 1540, etc., à une époque où on considère en réalité que ces claviers portables disparaissent, meurent. Sauf qu'on n'a pas vraiment de traces écrites. On sait que l'histoire n'est pas un précipice abrupt et qu'en 1509, quand Henri VIII arrive, c'est pas la mort de l'organetto ou du clavicembalum, etc. Donc qu'est-ce que cette expérience vous permet de confronter comme théorie?
Alors, l'idée de jouer ces répertoires, donc on va dire tardifs pour nos instruments, venait d'un constat qu'on retrouvait dans les discussions autour de nos instruments, de notre répertoire, de qu'il y a une sorte de convention pour lesquelles, quand on pense à un orgue portatif, un organetto, un clavicembalum, on les situe tout de suite au Moyen-Âge, plus concrètement peut-être entre le 14e, 15e siècle, en les reliant à des répertoires comme les manuscrits de Faenza ou Buxheimer. Et tout simplement, on n'imagine pas la possibilité de les placer plus tard, et surtout d'imaginer plus tard jusqu'à quand ça peut être. Mais c'est en même temps quelque chose qui, étonnamment, ce n'est pas parce que ça a été vraiment recherché et prouvé qu'à un certain moment, les instruments disparaissent, sinon tout simplement, ça n'a pas été posé la question. Donc pour nous, l'idée, c'était justement de poser cette question, de rechercher, et bien entendu, dans ces volets, il y avait un travail organologique, il y avait plusieurs types de disciplines qui allaient se croiser, mais aussi il y avait une nécessité de faire de la musique. Donc pas seulement de faire une recherche, on va dire, musicologique, mais vraiment pratique pour pouvoir voir avec nos instruments jusqu'où on pouvait aller. D'un point de vue de la recherche, on va dire, plus musicologique, on a retrouvé qu'il y a quand même beaucoup de traces encore, déjà à toute fin du 15e siècle, mais encore pendant les premières 10, 20, 30 années du 16e. Et d'un point de vue musical, c'est en faisant ce type de musique qu'on va écouter, qu'on a aussi trouvé quelques idées.
Voilà, et on remontera le temps, bien sûr, mais ce qui est vraiment très intéressant, si vous nous suivez dans Ce Matin des musiciens, c'est que à l'école des virginalistes, on verra justement les Gibbons, les Bull, les Bird, etc. C'est quand même plus tard, c'est 1570, 1580, 1590. Donc la question, c'est qu'est-ce qu'on joue entre 1500 et ces années-là? Et c'est toute la richesse justement de votre démarche, Tasso Solo. On vous écoute tout de suite, Guillermo Pérez et David Catalunya, dans le studio 118, dans ces deux pièces, une de Cooper, Farewell My Joy, et un anonyme, Where Be Ye My Love, et c'est à vous. Thank you. Guillermo Pérez et David Catalunya, Tasto Solo dans le studio 118, dans ces deux petites pièces anglaises des années 1530-1540, si vous nous rejoignez dans ce matin des musiciens, consacré à l'organetto, joué par vous Guillermo, et au clavicymbalum à marteau, joué par vous David Catalunya. Deux pièces donc anglaises, 1530, jouées avec ces instruments, et c'est tout l'intérêt de votre démarche. En gros, que sait-on réellement, Guillermo Pérez, de l'utilisation, sans être vraiment historico-rigide, mais on sait qu'à la cour de Henri VIII, il y avait beaucoup, beaucoup d'instruments. Il y avait des viols de gambe, il y avait des luttes par centaines, il y avait des sistres, il y avait des clavicymbalums, il y avait énormément des orgues portatifs. Donc, en gros, qu'est-ce qu'on sait ? Pas grand-chose.
Alors, on a un registre, un inventaire plutôt, des possessions dans les instruments d'Henri VIII. On retrouve, à un moment indiqué, un orgue portatif, même deux. On n'est pas très sûr exactement si ça indique vraiment un organetto, un orgue portatif au sens médiéval, ou vraiment un orgue plus petit qu'on peut poser sur la table. En tout cas, on voit qu'il y a un large set d'instruments différents. Il y a beaucoup d'appellations différentes pour les virginales aussi. On parle des virginales au sens, on va dire qu'on connaît plus moderne, en forme rectangulaire, mais aussi il dit des virginales en forme d'harpe, donc on imagine plutôt comme des sortes de claviciterum, des clavecins verticales. Donc en tout cas, on voit bien que d'un point de vue de l'instrumentarium qu'ils avaient, c'était très large et c'était vraiment un carrefour de beaucoup de cultures et de pratiques. Ce qu'on voit aussi dans la musique et dans les types de compositions. C'est surtout pour cette raison qu'on a choisi le répertoire et la période d'Henri VIII pour explorer un peu l'usage de nos instruments. Pas forcément ou spécifiquement parce qu'on croit que là, c'était un moment où ces instruments ont survécu de façon très large, mais parce qu'il y avait un contexte très large, en tout cas, qui permettait ça. Et aussi, et ça, je trouvais très intéressant en préparant les projets, une place très importante pour la culture plus ancienne chez Henri VIII. Il faut penser que la dynastie de Tudor, ils viennent de s'implanter, et pour eux, c'est très important de bâtir aussi un royaume riche, surtout d'un point de vue culturel, et pour lequel ils vont beaucoup s'influencer de Bourgogne, du duc de Bourgogne au XVe siècle. Et du passé, j'étais très étonné en faisant la recherche, en lisant que, par exemple, dans des poèmes d'Henri VIII, ils vont citer les grands maîtres des musiques.
Les old masters.
Voilà, et ils vont parler de Jean de Mur ou de Philippe de Vitry, des personnages qui sont du début du XIVe siècle.
De l'Ars Nova, vraiment Ars Nova.
Voilà, ouais. Donc ce point de croisement entre l'histoire du passé, du futur, nous paraissait que du coup, ça pouvait être un très bon contexte aussi pour faire cette recherche pratique.
Quelle magnifique musique, on se disait avec David Catalunya et Guillermo Pérez dans le studio 118, celle des fantaisies des virginalistes, en l'occurrence ici Orlando Gibbons, Gustav Leonhardt, bien sûr, au clavecin. Et ce sont ces trois fameux maîtres dont vous parliez aussi, Guillermo Pérez, il y a William Byrd, les virginalistes John Bull, Orlando Gibbons, qui meurent tous vers ses 120, donc vous voyez, on est quand même bien plus tard que le répertoire que vous jouez, hein, qui est 100 ans plus tôt à peu près, mais qui naissent à 20 ans d'intervalle, Byrd en 1543, Bull en 1562 et Gibbons en 1583, donc là on est vraiment fin 16e siècle. C'est cette école de virginalistes qui, on ne peut s'empêcher de penser, c'est vrai, qu'ils ont peut-être encore entendu à cette époque-là des musiciens qui jouaient sur orgue portatif, orgue portable, des répertoires plus anciens, du 15e, et que ce n'est pas du tout incompatible en réalité. Alors, il y a, avant d'aller sur vos instruments, l'organetto et le clavicymbalum à marteau, il y a aussi un axe qui est assez intéressant, puisque moi, je me rappelle dans mes cours de musicologie, il y avait cette idée aussi que les diminutions anglaises, cet art de la variation, venaient en particulier de l'Espagne. En gros, pourquoi ? Bon, il y a Cabezón. Cabezón, qui compose les premières différencias, première œuvre pour clavier dans l'Empire ibérique, et qui assiste au mariage de Marie Tudor avec Henri VIII à Londres en 1555. Il y aurait rencontré Talis et Byrd, et de là aurait infusé une manière de jouer le clavier, clavier qui peut être compris sous la dénomination de tecla, arpa ou vihuela. Mm-hmm. On ne sait pas trop, en fait, ce que recouvre la notion de clavier en Espagne, chez Cabezón. David, qu'est-ce qu'on...
Oui, c'est cette notion de harpa, vihuela et tecla. Ça, c'est en fait un aspect très caractéristique du XVIe siècle. Et c'est rien d'autre que laisser le texte ouvert. Alors, c'est des textes ouverts. C'est de la musique écrite qu'on peut jouer dans différentes circonstances et bien sûr avec différents instruments. Donc ça, c'est une chose aussi qu'on pense que ça s'est passé déjà avant. Et c'est pour ça que nous, on prend des pièces de Buxheimer ou de Faenza. Et on prend aussi comme, au 15e siècle. Aussi, on prend ça comme des textes ouverts, pas comme une musique qui est finie et pensée pour un seul instrument ou pour un instrument très concret. Mais on prend ça, comme je viens de dire, des textes ouverts qui peuvent sonner dans différentes circonstances et bien sûr avec des différents instruments. Et alors moi, je ne suis pas un expert, un spécialiste de la musique des virginalistes, mais là, cette idée que la diminution anglaise vient de l'influence de la diminution espagnole, ça c'est quand même toujours une idée un peu, je pense, un peu trop serrée, parce qu'on voit que la tradition des diminutions, déjà, ça démarre au XIVe siècle, on voit ça surtout en Italie, et après au XVe siècle, on voit que la tradition des diminutions s'est très bien établie un peu partout, en France, en Espagne, et aussi surtout en Allemagne et en Italie. Et alors, c'est difficile à imaginer qu'il y a toujours un point de départ concret dans un lieu et qu'après ça, il y a une migration de l'Espagne vers l'Angleterre. Ça, c'est quand même assez difficile d'imaginer.
Guillermo Pérez.
Oui, je voudrais ajouter au sujet aussi par rapport à la terminologie diferencias. On la trouve déjà, on l'associe toujours très directement à Cabezón, mais au XVe siècle, à Buxheimer, on retrouve par exemple, il y a un petit Magnificat orné, donc la mélodie du plein chant au ténor, il s'est écrit Magnificat cum diferencia.
Ah, déjà, oui. Ce terme de diferencias.
Voilà.
Donc diminution, mais version
voilà.
Espagnole.
Voilà, donc on va la trouver à la moitié du XVe siècle.
En fait, si on reprend là un peu le côté plus musicologique, déjà la différence, ça vient déjà du plein chant. Donc la différence, c'était les différentes façons de donner l'intonation. Donc on avait des formules dans ce qu'on appelle les tonnerres, donc des collections, des formules d'intonation pour différents chants liturgiques. Et là, déjà, on a le terme différence. Après, ça passe au côté instrumental, dans la dimension plutôt diminution. Et c'est toujours le concept de varier sur quelque chose. Thank you.
Atiento de Cabezón, joué par Paola Herdas. Nous sommes dans les années 1560. Et avec vous, Tasto Solo, Guillermo Pérez et David Catalunya, dans le Matin des musiciens, le dernier de l'année. Merci d'être avec nous. Alors, Organetto, alors ça parle peut-être à quelques auditeurs, bien sûr. Orgue portatif, qui a une histoire qu'on fait commencer quand, Guillermo Pérez? 14e,
non,
fin 13e?
On va trouver à la fin 12e déjà les premières traces. Pour le 13e siècle, là, c'est développé vraiment. Et 14e, 15e, être une période, un âge d'or très documenté.
Alors, pourquoi l'orgue portatif est-il portatif? Je sais qu'il y a, bon, il y a pas mal de théories dans une histoire qui est strictement contemporaine avec les grandes orgues, en réalité.
Oui. Et là, je vais prendre des écrits de Christophe Deligne, qui était vraiment une personnalité très importante dans le développement du travail avec ces instruments. Donc, deux idées intéressantes. Sans doute, il y a plusieurs raisons. C'est jamais une seule pour laquelle les choses arrivent, non? Mais une des questions, c'est voilà, la possibilité d'avoir une petite version de l'orgue qu'on va sortir dans la rue pour les processions. Parce que vraiment, l'instrument, il est très lié à cet aspect portable, vraiment, au premier sens.
Et parce que je crois qu'on peut le jouer debout, parce qu'il y a deux représentations, je crois, de Landini, on verra plus tard, où on le voit au début de sa vie dans le Squarcialupi assis, et puis après, debout. On peut vraiment le jouer debout, là?
Oui, il y a plein, vraiment, énormément de représentations d'instruments pendus, avec des systèmes d'attache. Bien entendu, des instruments dans une taille plutôt petite, mais qui servaient vraiment pour pouvoir marcher, voilà, dans la rue, même jouer, danser en même temps. Et donc, cette idée, pareil, qu'on va sortir une petite croix en représentation du grand crucifix de l'église, on va les sortir dehors, et pouvoir porter l'orgue, qui est l'instrument de l'église, de Dieu, le porter à l'extérieur. Donc ça, c'est peut-être une des raisons. À côté, tout le travail qui peut-être a été réalisé sur des modèles plus petits, donc des orgues portatifs, pour développer des choses qu'après on va appliquer dans des orgues plus grands. Sans doute, il y a encore d'autres raisons, je pense. Mais en tout cas, ce n'est pas une seule.
Thank you.
Une estampille jouée par Christophe Deligne et Thierry Gomard, un disque consacré au maître de l'organetto florentin du XIVe siècle, a commencé donc par Francesco Landini, dont vous parliez, Guillermo Pérez. Il y en a d'autres, il y a Lorenzo Massini, et puis bien sûr beaucoup d'anonymes. Mais tout ça pour dire que, avant de soi-disant mourir au XVIe siècle, l'organetto est un instrument très important au XIVe siècle. Il est joué par Landini.
Oui, joué par Landini, par beaucoup d'autres musiciens très, très, très documentés en Italie, mais aussi en France, en Espagne, à la Couronne d'Aragon. C'est un instrument vraiment très, très important, extrêmement documenté, pas seulement d'un point de vue iconographique, picturel. Bon, on a des fresques un peu partout en Europe à cette période qui montrent des anges musiciens ou des musiciens tout court en train de jouer l'orgue portatif, mais vraiment des documentations, d'archives qui va parler des musiciens, qui va payer des paiements, où l'orgue portatif a une place très importante, soit dans le répertoire profane ou aussi dans le répertoire religieux. Donc vraiment un instrument très représentatif de cette période.
Alors, chers auditeurs, savez-vous comment ça fonctionne un organetto ? Alors, est-ce que vous pourriez nous décrire, on vous mettra bien sûr les photos, mais l'instrument et surtout ce qu'il permet de faire dans la coloration des notes, parce que vous avez deux soufflets ?
Un soufflet. Il faut imaginer que c'est un instrument qui est composé par les éléments vraiment essentiels de l'orgue. Donc il y a des tuyaux, il y a un clavier, il y a un soufflet. Mais tout est réduit vraiment à l'expression la plus petite, à l'essence. Donc l'instrument que je tiens ici.
Sur votre jambe gauche.
Voilà, posé sur ma jambe gauche. C'est une reconstruction. On n'a pas d'instruments originaux conservés à l'époque. Donc on travaille à partir des traités qui bon, expliquer certains paramètres de la facture, beaucoup d'iconographie aussi. Mais en tout cas, j'ai à peu près une vingtaine de tuyaux, donc environ 2 octaves d'étendue. J'ai un petit clavier composé avec des touches qui fonctionnent, qui ont une action comme des boutons, donc vraiment vertical.
Et qui libère l'air.
Voilà. Et un soufflet qui va nourrir l'instrument d'air et au moment où je vais appuyer sur une touche, va faire passer cet air dans les tuyaux. À cause de cette simplicité, mais aussi peut-être grâce à cette simplicité, l'instrument présente des possibilités de jeu très particulières qu'on ne va pas retrouver dans les orgues plus grands et qui sont liées au fait que la pression qu'on va exercer sur le soufflet va être égale, va être directe au tuyau. Autrement dit, je vais pouvoir souffler plus ou moins, donc envoyer plus ou moins d'air. Donc une note, je vais pouvoir la jouer très doucement ou très fort. Voilà, moyennant le changement de pression. De ce fait, le musicien, il a la possibilité, il est responsable de la qualité du son, vraiment pendant toute la durée de chaque note, donc du début à la fin, des attaques, et des possibilités dynamiques, mais qui du coup sont aussi liées aux possibilités de justesse. En changeant la dynamique, telle que les flûtes, on va changer la justesse. Du coup, en tout cas, de mon point de vue, la façon comme je travaille, à la limite de l'usage de ces possibilités du soufflet est conditionnée par la limite de la justesse. D'un point de vue où je vais être expressif, mais si je m'éloigne trop d'une certaine justesse, je vais perdre aussi un certain sens de mon discours musical. Donc on est tout le temps en train de faire des compromis entre jouer faux, mais pas trop faux, et être expressif, mais pas trop, voilà.
Est-ce qu'on peut faire des vibratos, du coup ?
Oui, on peut faire des vibratos, donc là... rapide. On peut faire toutes les attaques, on peut vraiment développer toutes les possibilités qu'on aurait avec un instrument avant, ou même un petit peu aussi un instrument archer. Pour moi, le contact avec les soufflets, j'ai jamais joué d'instrument archer, mais je pose toujours l'exemple parce que je sens que le soufflet, ça devient presque une sorte d'archer, puisqu'on travaille aussi en termes de vitesse et de poids. Voilà, donc ça c'est avec la main gauche, et la main droite, du coup, elle tombe sur le clavier, et sur lequel on peut faire toutes les choses qu'on va pouvoir développer avec une main, sur ces petits claviers.
Oui, une main, quand même... une main dont on apprend aussi en cours de musicologie, très souvent que c'est joué à 2 doigts, quoi, ou 3 doigts.
Oui, voilà, sur les doigtés, bon, c'est un peu la question que les livres ou certains musicologues vont essayer de donner des cases. On n'a aucune information sur s'il y avait des doigtés ou non. Dans tous les cas, bon, je ne pense pas qu'il y avait une seule façon de faire.
Est-ce qu'il n'y a pas obligation de chanter ?
Est-ce qu'il n'y a pas d'obligation de chanter ? Non, par contre, il y a des documents qui font penser à un usage de chanter et jouer et s'accompagner, mais bon, tel que beaucoup d'autres instruments, donc avec une vielle aussi, on peut chanter et s'accompagner avec. Moi, personnellement, je ne chante pas, mais j'invite. J'ai des élèves qui sont en train de travailler sur ce sujet, c'est vraiment très intéressant.
Alors, avant d'aller sur un organetto un petit peu spécial qui a été imaginé par Leonardo da Vinci, qu'en est-il de l'organetto au XVIe siècle en Italie ?
Alors, de l'organetto au XVIe siècle en Italie et en général, mais en plus particulièrement de l'Italie, il y a un tableau qui est souvent annoncé comme correspondant au point de la mort de l'organetto. Donc, c'est un tableau de Raffaello, c'est Santa Cecilia.
C'est 1510.
Voilà, 1514, je crois. On voit Santa Cecilia dans son extase, qui a plein d'instruments cassés. Et donc, il y a un organetto renversé où les tuyaux tombent. Et on s'est dit, voilà, ce tableau, c'est vraiment la représentation historique du moment où l'instrument disparaît. Et moi, personnellement, je ne vois pas comme ça la chose. Au contraire, quand on étudie ces tableaux, on voit d'une part déjà que le dessin, enfin, la peinture de l'organetto est très précise. Donc, très probablement, il y avait un modèle là derrière. Un modèle en plus qui présente des particularités qu'on pourrait assimiler à des factures plus modernes. Donc, par exemple, les touches, ce n'est plus des boutons, c'est des touches plus, on va dire, en forme moderne, comme des clavecins. Bon, quelque chose qu'on voit aussi déjà au XVe siècle. Mais voilà, il y a plusieurs choses dans la facture qui nous disent peut-être que l'instrument était bel et bien là. Et Raphaël, il ne le peint pas parce que c'est la fin de l'instrument, mais parce que ça fait partie des instruments qu'il a devant lui. À ce sujet, on m'a fait découvrir récemment, et ça, je remercie Philippe Canguilhem, un musicologue, un spécialiste de la Renaissance, qui m'a montré un document. Donc une lettre qui décrit des actes de petits intermezzo musical pendant un carnaval à Rome en 1519. Et donc il dit voilà, que pendant ces intermèdes, il y avait la musique des pifari, donc des instruments à vent, cornamusi, les cornamuses, cornetti, des viols, des luttes, donc les viols, les luttes. Il dit aussi, et de l'organetto che era tanto variato di voce che donò al Papa Monsignor Illustrissimo de buona memoria. Donc il parle vraiment d'un organetto qu'en Italie, c'est difficile que ça parle à d'autres instruments que vraiment à l'orgue portatif. Et en plus, avec ces détails très intéressants, che era tanto variato di voce. On ne sait pas exactement à quoi ça fait allusion, mais peut-être c'est justement aux possibilités expressives.
C'est pas être expressive.
De l'instrument. Donc vraiment, on voit que cette époque-là, au début 16e, il y a encore des traces d'une tradition qu'il faut penser qu'aux années 1480-90 était encore extrêmement vivante.
Concert dans le cadre du festival Cantar di Pietre en Suisse avec Guillermo Pérez, Luca Pianca au luth et Margrethe Köhl à la harpe dans un capriccio de Vincenzo Ruffo, donc dans les années 1540-1550, donc en imaginant qu'on joue encore en Italie l'organetto. Nous sommes toujours avec vous dans ce matin des musiciens, Tasto Solo, consacré à ces deux instruments, organetto et clavicymbalum à marteau, avec une petite incursion du côté d'un instrument imaginaire, en tout cas imaginé, dessiné même, par Léonard de Vinci. Alors, qu'en est-il de cet ancêtre de l'accordéon ? Je vous dis ça parce qu'en gros, pour les auditeurs, double soufflet et puis clavier vertical. Alors, qu'est-ce que c'est que cette histoire, Guillermo ?
Alors, en ce qui concerne la recherche organologique pour l'orgue portatif au début du XVIe siècle, j'ai beaucoup travaillé avec Walter Kinali, qui est un facteur qui a fait mes instruments et avec lequel on travaille sur l'organette depuis quelques années. Et en travaillant ensemble, on s'est trouvé avec un élément assez original qui était un peu connu, mais qu'on a voulu aussi développer. Et c'est dans un manuscrit du tout début du XVIe siècle. C'est un des petits cahiers personnels de Leonardo da Vinci, où il notait sa liste des courses, il faisait des dessins, des plans. Un petit croquis d'un instrument, un petit orgue, qui reprend des éléments de l'orgue portatif, mais qui les développe d'une autre façon. Donc, c'est difficile de décrire, puisqu'il faut aller voir...
Quand on le voit, c'est vrai qu'on se demande si c'est en deux dimensions ou trois dimensions. Donc, voilà. Qu'est-ce qu'on voit exactement, alors, Guillermo ?
En tout cas, ce qu'il décrit dans ses petits croquis, il parle d'un instrument qui aurait un double soufflet. Donc, il faut penser sur les organetto normales, les organes portatifs. Nous avons un soufflet qu'on remplit, qu'on va faire de la pression pour nourrir l'instrument d'air. Et quand il va être fini, on va le re-remplir à nouveau. Donc, il faut respirer, comme la voix, comme l'instrument avant. Et Leonardo, il montre un exemple... quelque chose qu'il n'a pas inventé, qui est déjà connu de l'histoire, mais il propose un système de double soufflet. Donc, c'est deux soufflets, on va imaginer, collés l'un à côté de l'autre, de façon que quand on est en train de pousser sur un soufflet qui va être en train de se vider, l'autre est en train de se remplir. Et donc, de ces façons, on va les faire bouger dans les directions. On va avoir un soufflet, un double soufflet, qui fonctionne en pousser-tirer.
Donc, c'est l'accordéon.
Voilà, c'est vraiment le principe de l'accordéon. Donc, avoir les deux directions dans les soufflets. Puis, il présente un clavier qui donne la sensation d'être disposé de façon verticale. Et puis des tuyaux qui partent en diagonale au-dessus de l'instrument, donc une conception très, très spéciale. Oui, vraiment très, très fortuite. Ça, c'est le cas de le dire. Et du coup, on avait décidé de faire une reconstruction, parce qu'on a pu retracer trois reconstructions antérieures à la nôtre, mais qui avaient fait cet instrument dans une idée un peu de machine musicale, mais qui ne fonctionnait pas vraiment. Et nous, on s'est dit, essayons d'utiliser notre expérience avec les orgues portatifs pour dire, bon, cet instrument, peut-être, il a été pensé dans la base, comme un orgue portatif, donc d'appliquer et de faire un instrument qui pouvait fonctionner. Et donc, du coup, on a fait cette reconstruction. Je voudrais ajouter un parallèle à ça. On a essayé d'imaginer et de construire un organetto dans un modèle Renaissance. L'idée, c'est de dire, si on prend l'orgue gothique portatif normal et on essaye de les faire évoluer, je ne sais pas, avec des tuyaux en bois ou avec aussi un double soufflet, qu'est-ce que ça deviendrait ? Et ça, c'est un projet qu'on n'a pas abouti. Parce que ça ne marchait pas. L'orgue portatif médiéval, tel qu'il était construit, mécaniquement, il est parfait. Tout changement devient contre-productif. Donc, c'est les deux choses qu'on a essayées. Mais l'instrument de Leonardo, on l'a fait, oui.
Et ça donne ça. Thank you. C'est vous, Guillermo Pérez, à l'organetto imaginé par Léonard de Vinci et Angélique Moyon à la harpe dans cet anonyme du Cancioniero del Escorial, « Je meurs venant ma guérison ». Et donc cet instrument qui sonne quand même différemment d'un autre organetto gothique portable. Et c'est vrai que c'est assez intéressant.
Oui, c'était une très belle aventure de recherche, mais du coup aussi de pratique. Il fallait du coup développer une nouvelle technique, déjà du fait d'avoir un soufflet à deux directions, donc pousser, tirer, de se retrouver avec un clavier vertical tel que les accordéons, et surtout d'une difficulté assez grande par rapport aux orgues portatifs médiévaux où on a une transmission de l'air qui est très fluide et très directe. Mmh. Ici, il a fallu recréer, pour faire cet instrument qui peut-être n'a jamais existé à l'époque de Leonardo, vraiment un circuit de conduit de l'air très compliqué, puisqu'il y a plein de passages. Du coup, ça oblige aussi à maintenir une pression plus régulière, donc beaucoup plus stable, parce que sinon, tout de suite, on a des problèmes de son. En quelque sorte, l'instrument de Leonardo est très intéressant, mais bien moins efficace musicalement qu'un organetto classique, on va dire.
Alors, on revient un petit peu à ce répertoire, on va dire, pré-virginaliste, en tout cas début XVIe siècle, avec une pièce que vous allez jouer avec David Catalunya, avant qu'on parle justement de votre instrument. Mais alors, qu'est-ce que l'on sait? C'est-à-dire, qu'est-ce que cette expérience de confronter des instruments dont on pense qu'ils n'étaient plus joués à cette époque-là avec justement ces musiques de transition qui préparent le terrain aux virginalistes? À quel diapason êtes-vous accordé? Je suppose que ça doit poser des problèmes pour la tension des cordes, notamment du clavicymbalum, David, ou pas? Qu'est-ce qu'on sait sur le diapason?
La question du diapason, c'est toujours compliqué parce qu'on n'a pas vraiment de documents qui nous disent... Bon, déjà à l'époque, c'était très difficile de décrire le diapason. Mmh. Donc, on n'a pas de description de diapason. Mais sinon, on a quand même des organes très anciens. Et là, on voit que le diapason, c'était toujours très haut. Donc, déjà 14e, 15e, 16e siècle, l'idée que c'était un diapason très haut, mais on ne sait pas exactement. Aussi, on voit dans les iconographies, avec des instruments tellement petits, on imagine que le diapason, c'était toujours haut. Là, nous, on joue normalement un diapason de 465.
465.
Ça, c'est un demi-ton plus haut que le typique 440.
Guillermo.
Oui, je voulais dire aussi à la question des diapasons, c'est qu'à nouveau, je pense que c'est plus un problème d'essayer de mettre des étiquettes. Personnellement, je ne crois pas qu'il y avait un standard des diapasons. Déjà parce qu'il faut penser, les diapasons, c'est une convention, a priori déjà, qui implique, par exemple, le fait qu'il y a plusieurs personnes qui vont jouer. Et moi, j'ai vu des luthistes qui vont faire un récital solo et on demande, mais votre luth, il accorde comment? Ils vous disent, mais je ne sais pas, je prends ma première corde, je l'attends, et quand ça sonne joli, je m'accorde.
Et quand la tension est bonne et que ça libère assez d'harmonique,
je m'accorde comme ça. Et je pense qu'il y avait ça. Aussi, j'étais en train de me rappeler une lettre qui parlait des ménestrels en Aragon, à la couronne d'Aragon, à la fin du XIVe siècle, et qui disait, on a envoyé chercher une bombarde qui puisse s'accorder avec l'instrument qu'on a ici avec nous. Donc peut-être que c'était une question, on ne sait pas, mais cet accord, c'est une question de diapason. Voilà, on a des instruments qui sont à tel diapason, on a besoin d'un autre pareil. Mais ça n'implique pas, je pense, forcément le fait qu'il y avait un standard, ou dans tous les cas, un seul standard pour toute l'Europe et pour toute la période.
Ça c'est clair, il n'y avait pas de standard, mais on peut quand même tracer des tendances. Mmh. On peut voir que dans l'Europe, c'est ce qu'on sait d'après les orgues plus anciens qu'on a survécu, on voit que en général, il y a une tendance à avoir des diapasons assez hauts.
Assez haut.
Par rapport à la tendance, peut-être aussi dire, dans l'organetto, cette tendance a une logique. Le fait d'avoir des instruments, des organettos avec des diapasons plus hauts, ça permet d'avoir des registres plus graves avec des tuyaux qui ne sont pas trop longs.
Et bien sûr. On fait vous avez quand même la longueur des tuyaux.
Voilà.
Sachant aussi qu'il y a différentes tailles d'organetto. C'est-à-dire que là, globalement, il doit faire, je sais pas, 60 cm si on prend le... un peu plus.
Un peu plus, un peu plus.
Si on prend le tuyau plus grand. Mais qu'il y a des organetti qui sont un petit peu sensiblement plus grand.
Un peu plus grand, mais pas vraiment beaucoup plus, parce qu'après tout l'instrument proportionnel, je veux dire, on va monter dans le côté large, enfin plus haut de l'instrument, on va monter à 90, plus que ça, plus que proportionnellement, tout l'instrument après, il prend la proportion, il va être trop grand pour être joué soi-même, ça va être plutôt un instrument plus grand qu'on pose sur la table et on joue avec les deux mains, donc un orgue positif, on va dire.
Alors avant de poser une question presque anthropologique, on va vous écouter qui est celle de se dire pourquoi, mais en fait on a voulu mécaniser des instruments. Et je pense notamment à ce merveilleux instrument qu'on va entendre, David Catalunya, le clavicymbalum à marteau, psaltérion mécanisé, je crois qu'on l'appelait un petit peu comme ça. Mais cette question est vraiment anthropologique. Pourquoi mécaniser un instrument? Pourquoi faire que le corps physique n'agit pas directement sur le corps résonant? Et à la fois, en vous voyant, c'est vrai Guillermo, on se dit qu'il y a quelque chose d'extrêmement sensuel dans le rapport du musicien avec son instrument posé, en l'occurrence sur votre cuisse, et sur la distance physique entre votre oreille et les tuyaux, et puis cette proximité aussi avec le soufflet. Mais avant de poser ces questions, on vous écoute tous les deux, David Catalunya, Guillermo Pérez, dans ce masque intitulé tel quel de Hugh Heston. Nous sommes toujours début 16e siècle en Angleterre et ici dans le studio 118.
Thank you.
Guillermo Pérez, David, Catalunya, Organetto et Clavicymbalum à marteau, l'ensemble Tasto Solo dans Le Dernier Matin des Musiciens de l'année. Merci de nous retrouver. Si vous nous rejoignez, nous sommes au début 16e siècle, à une époque où on pense que ces deux instruments ne sont plus joués. C'est pas si simple que ça. En tout cas, le but n'est pas de dire qu'ils étaient forcément joués, mais qu'on teste les limites organologiques presque, en les confrontant à un langage. Et donc, je me tourne vers vous, David Catalunya, avec cet instrument qu'on connaît un petit peu dans Le Matin des Musiciens, puisque vous êtes venu pour en parler l'année dernière, clavicymbalum à marteau. Alors, ce n'est pas le clavicitérium, c'est le clavicymbalum à marteau, en quelques mots.
Bon, c'est un instrument qui marche un peu sur les principes sonores du piano, en fait. C'est des marteaux qui frappent les cordes. Et c'est ce qui nous donne la possibilité de jouer avec des dynamiques. Ça, ce n'est pas le cas avec les instruments à plectre. Bon, en fait, il faut savoir que toutes les possibilités d'instruments à clavier, ils sont nés presque en même temps, au début du XVe siècle. Le document le plus ancien qui nous décrit en détail les questions mécaniques des instruments à clavier, c'est le fameux traité d'Arnaud Desvolle. Il nous décrit...
430-440.
Donc ça, c'est la description la plus ancienne qu'on a en détail des aspects mécaniques des instruments qu'on appelle aujourd'hui clavicymbalum. Et en fait, pour lui, l'instrument qu'il appelle clavicymbalum, il pouvait avoir trois ou quatre mécaniques ou sortes de mécaniques différentes. Voilà, Arnaud Desvolle, il décrit plusieurs systèmes de plectres, donc ce qu'on connaît aujourd'hui avec le clavecin moderne, comme le clavecin 18e ou le clavecin 17e. Après, il décrit aussi des mécanismes de tangents, donc c'est le principe sonore du clavicorde. Et après, il décrit aussi une mécanique très simple de marteau. Voilà, donc ça, c'est ce qu'il appelle dulcemelos.
Dulcemelos,
exactement.
Ça,
mais là, avec la terminologie, c'est fascinant parce qu'en fait, Arnaud Desvolle, il utilise la terminologie. Donc, le nom de l'instrument, ça dépend de la forme, pas de l'aspect mécanique. Donc, il dit un clavicorde, qui est un instrument carré, il peut avoir le son du dulcemelos, qui est le son de marteau. Il peut avoir le son du clavicymbalum, qui est le son de plectre. Ou il peut avoir le son du clavicorde. Donc, les tangents. Et la même chose pour le clavicymbalum. Donc, le clavicymbalum, on peut le faire sonner comme un dulcemelos si on munit l'instrument de la mécanique là, des marteaux. Voilà.
Alors, instrument effectivement dynamique, c'est vrai que ce qu'on entend sous nos voix, c'est un disque important de Marcel Pérez, mais qui joue sur le clavicitérium, qui est un instrument beaucoup plus grand.
Oui, un petit peu plus grand, mais surtout, c'est un instrument qui est vertical et aussi un instrument de plectre.
Et c'est vrai que, enfin, je veux dire, on va pas. Ouais, si, on est un peu là quand même pour ça aussi, pour bousculer les idées toutes faites et la matière morte, mais c'est vrai qu'on se dit pourquoi on est revenu au fin 16e, début 17e, au clavecin, alors qu'on avait découvert les potentialités expressives de l'organetto de manière à pouvoir insuffler sur la dynamique, sur le débit, qu'on avait découvert le clavicymbalum à marteau avec cette palette expressive incroyable et qu'on est finalement revenu pendant un siècle et demi à la mécanique du plectre.
Enfin, oui, exactement. Bon, je pense que ça, on n'arrivera jamais à savoir. Mais quand même, on peut imaginer des scénarios différents. Par exemple, on voit qu'effectivement, la mécanique pour le clavicymbalum avec marteau, c'est une mécanique très expressive.
Mais on peut avoir un exemple justement.
Oui, par exemple, ici, j'ai l'instrument devant moi. Je peux jouer une note. Je peux jouer doucement, comme ça. Je peux jouer fort. Donc j'ai une gamme de nuances, le pianissimo, même le pianissimo, au fortissimo, et tout ce qu'il y a au milieu. Et aussi la répétition, ça marche vraiment bien. C'est vraiment un psalterium mécanique. Et alors là, évidemment, ça va très bien avec l'esprit de l'époque, parce que c'est l'époque-là, au XIVe siècle, et aussi au début du XVe siècle, qu'ils ont commencé à développer des machines, des machineries très sophistiquées, des instruments astronomiques, des horloges. Et en fait, Arnaud Desvolle, il n'était pas surtout connu pour être un très important facteur d'instrument, mais surtout, il était très connu, il était vraiment fameux pour avoir construit des instruments astronomiques très complexes et des horloges. Donc, en fait, il faut savoir aussi que le manuscrit, là où on trouve le traité de construction d'instruments, qui est d'ailleurs conservé à la Bibliothèque nationale, ici à Paris, quand on voit le livre, il est un livre assez épais, donc je pense qu'on a plus que 200 folios. Et la partie des instruments, c'est vraiment un petit cahier à la fin, ajouté à la fin. Là, le corps principal du traité, c'est un traité de technologie. Donc, il décrit plein de machines bizarres, des escaliers pliables, des horloges très complexes, différents types d'horloges, et aussi des instruments astronomiques pour faire des calculations. Bon, bien sûr, il s'intéresse à toutes sortes de machines. Et à la fin, il s'intéresse aussi aux machines musicales. Donc, il décrit plein d'instruments différents, comme l'orgue et le clavicimbalum.
Et c'est vrai que c'est intéressant parce que cette question qui est, à mon sens, est une des plus importantes. Pourquoi dans l'histoire de la musique, on est allé plutôt vers une recherche du volume sonore ou de proportion d'instruments, c'est la même chose pour l'orgue d'ailleurs, oui, plus importante, au détriment d'instruments peut-être moins forts en projection, mm-hmm, mais beaucoup plus expressifs. Ça, c'est en dynamique.
Oui,
en
l'autre
intensité.
Chose, c'est. Bon, il y a les deux côtés, je pense. D'abord, une fascination pour la mécanique soi-même.
Bien sûr, bien sûr.
Donc, il y avait aussi le vouloir surpasser les limites de la technologie, donc expérimenter au niveau technologique. Mais aussi, il y avait, je pense, à mon avis, la possibilité de jouer polyphoniquement. Donc, une seule personne qui peut jouer du psaltérium, mais d'une façon polyphonique, parce qu'évidemment, avec les psaltériums qu'on connaît, qu'on joue avec le plectre ou avec les marteaux, on est assez limité polyphoniquement. Donc ça, la possibilité d'appliquer la technologie à famille d'instruments qui existaient déjà, ça donnait aussi la possibilité d'explorer vers le côté polyphonique, je pense.
Alors on revient un petit peu aux fondamentaux, justement à la basse, c'est-à-dire en réalité deux voix, un ténor un peu structurant à la basse, et puis des diminutions avec un disque absolument mythique, bien sûr, c'est le Faventina de Malapunica où vous jouez, David Catalunya, mais le clavicimbalum à plectre.
À plectre, exactement.
Le Kyrie Orbis Factor du Codex Faenza, disque mythique Faventina Malapunica avec vous, David Catalunya, ici au clavicimbalum, mais pas à marteau, à plectre. Alors, Tasso Solo, c'est vrai que cette question hein, de la mécanisation et puis du fait qu'on a délaissé les potentialités expressives de ces instruments au profit de, en fait, d'une mécanique à plectre, elle est un petit peu, finalement, sans fin, on pourrait consacrer une émission. Mais ce que vous me disiez quand même en aparté, David Catalunya, c'est qu'il y a quand même peut-être des indices, la question de l'étouffoir.
Oui, en fait, je pense que tout le monde se pose la question. Bon, si le clavicymbalum à marteau, il existait déjà au XVe siècle, et on a vu que ça donnait la possibilité de jouer d'une façon très expressive, pourquoi on abandonnait cette idée? On abandonnait le développement de ce genre d'instrument? Et je pense qu'on n'arrivera jamais à savoir. On n'arrivera jamais à savoir aussi jusqu'à quel point la mécanique de marteau, il était développée au XVe siècle. On sait que ça existait. Mais aussi, je pense qu'il y a toujours une possibilité que j'arrive à imaginer assez bien, c'est qu'en fait, la mécanique des marteaux, c'est une mécanique extrêmement simple. Donc, ce n'est pas du tout étonnant que c'est une mécanique qui est explorée déjà au XVe siècle. Mais ce qui est vraiment compliqué, c'est munir la mécanique des marteaux avec des étouffoirs. Mmh. Donc, comme le piano moderne, ou même comme le clavecin, vous savez que le clavecin, c'est le principe du plectre, mais aussi... Donc, on a des étouffoirs. Et quand on arrête de jouer une touche, donc alors le son disparaît. Et alors, je pense que là, sur le clavicymbalum à marteau, vraiment, là, tout ce qui implique la mécanique, donc munir l'instrument avec des étouffoirs, ça devient vraiment, vraiment compliqué.
Non, donc, vous n'avez pas de maîtrise sur la disparition du son.
Si vous voyez les premières fortepiano, la deuxième moitié du XVIIIe siècle, ce qui est vraiment complexe, c'est toute la mécanique, tout ce qui a à voir avec les étouffoirs. Et donc, je pense, évidemment, au VIe siècle, les instruments à clavier, ils ont commencé à grandir plus et plus, parce que, aussi, bon, ça c'est très connu, ce phénomène que la musique polyphonique, elle commence à grandir aussi la tessiture. Mmh. Donc, on va aussi vers les graves. Et je pense là, mon instrument, par exemple, il est déjà aux limites dans les notes graves. Ici, par exemple, vous voyez que sans s'étouffoir, on joue une note, ça continue à sonner. Donc, quand on joue des mélodies, par exemple, dans les graves, vous avez toujours la résonance de chaque note qu'on a jouée. Donc, je pense ici, déjà, c'est le limite. Donc, si on imagine que l'instrument au XVIe siècle, il grandit et qu'on commence à jouer de la polyphonie très complexe, aussi, que le registre polyphonique, ça va aussi vers le grave.
Bien
sûr que ça deviendrait complètement impossible à jouer.
Ou alors,
entendre.
Ou alors spectralement assumé, quoi. C'est-à-dire...
Évidemment, évidemment. Je pense que ça serait une des raisons hypothétiques pour expliquer pourquoi le clavecin, il a commencé à grandir plus et plus. Et on a abandonné le clavicymbalum, qui était une mécanique beaucoup plus complexe.
C'est vraiment intéressant parce que finalement, on est parti d'une question sur la naissance du son et l'enjeu qu'il y avait autour. Mais on s'aperçoit, en fait, en parlant et en dressant des hypothèses, que bah, finalement l'enjeu est plutôt du côté de la disparition du son, parce que faire naître le son, presque donner à tout le monde, mais le faire disparaître, avoir une maîtrise de la vie d'un son,
exactement,
c'est presque là l'enjeu esthétique. Et finalement, cette idée de polyphonie, hein, très brièvement, Guillermo, c'est pareil pour l'organetto, quoi. Parce qu'on joue avec une main.
Oui.
À un moment où on décide de développer le langage polyphonique.
Oui, moi je pense que la disparition de l'organette est vraiment liée au passage où on associe vraiment clavier à un monde bimanuel, d'où aussi, en revenant à l'idée du tasto solo, non ? Pour le 18e siècle, le jeu du tasto solo, c'est l'anomalie, jouer une seule mélodie avec seulement une main. Pour moi, c'est la normalité, jouer avec une seule main. Bon, il y a la possibilité polyphonique, mais surtout, simplement une mélodie. Et c'est à l'époque, justement, par rapport à ce que disait David, qu'on sait, l'élargissement des instruments, de la tessiture, le développement du contrapoint, de plusieurs voix, et vraiment l'usage de deux mains, qui va faire que toute la tradition des claviéristes, qui pendant les Moyen-Âge, on va les retrouver documentés en train de jouer l'organetto, l'orgue, le clavecin, ils vont, je pense, perdre de l'intérêt par rapport à l'organetto, parce que vraiment, ça va être le travail avec le deux mains sur les claviers qui va être privilégié.
Très intéressant, toutes ces histoires, vraiment. Donc, merci, hein, messieurs, d'être avec nous. Alors, même pas deux mots, trois mots, allez, pas plus. David Catalunya, sur ce qu'on va entendre, vous allez nous jouer une pièce. Très franchement, je vous ai entendu en répétition tout à l'heure, hallucinante, de Thomas Preston, Upon la Mirée, donc
bon, basse obstinée. C'est ce qu'on appelle les ground anglais, donc c'est une pièce basée sur une basse obstinée, qui est très très simple, vous allez entendre, c'est seulement trois notes. Et en fait, ce qui est assez étonnant, c'est tous les jeux chromatiques que vous allez entendre.
David Catalunya, c'est à vous, tendez bien l'oreille, parce que c'est vraiment de la très très belle musique. Thank you. David Catalunya dans le studio 118, dans cette pièce de Thomas Preston, fin 16e siècle en Angleterre, Upon La Mi Ré, les trois notes que vous avez entendues à la main gauche, à la basse, avec ce langage chromatique complètement incroyable, une espèce de conscience mélodique très contemporaine. On a à la fois, je veux dire, des éléments de pop music, ça fait penser à des choses de Keith Jarrett, enfin, c'est incroyable comme musique, vraiment incroyable. Alors merci à vous, l'ensemble d'Asto Solo. On arrive quasiment à la fin de ce matin des musiciens. C'est vrai qu'il y a un disque que vous avez enregistré en 2003, Guillermo, mais il n'y en a qu'un seul. Alors c'est vrai qu'on est en 2014, pourquoi qu'un seul disque?
Alors, le disque, on l'a enregistré en 2008.
Ah, c'est 2008.
Petite précision. C'est vrai que ça fait un petit moment. Pour tout dire, pour moi, c'était très important que l'ensemble puisse exister indépendamment d'une activité discographique et nous développer dans les projets. J'aime beaucoup l'idée de faire des disques, mais c'est quelque chose que j'ai tenez aussi à que ça se fasse dans les bons moments et qu'en parallèle, vraiment, on puisse passer à l'occasion là 3-4 ans à chercher à faire du répertoire, avoir une activité concertiste, sans forcément. Pour la petite annonce, là par contre, il y a des disques qui vont en arriver. Cet été, on va enregistrer un deuxième volet vraiment très différent, très riche, mais qui va être une deuxième partie du travail qu'on a commencé avec les disques autour de Konrad Paumann.
Donc. Alors Konrad Paumann, hein, c'est vrai, lui aussi aveugle, hein, comme Landini. Bon, voilà. Ça c'est pour l'anecdote. Voilà. Mais donc, aveugle, il y a cette idée aussi que la cécité permet aussi de mieux entendre sa voix intérieure. Mais en l'occurrence, donc Konrad Paumann, 1450 hein, pour les auditeurs, et un codex, un manuscrit de Buxheimer.
Oui, c'est ça, c'est les manuscrits qui retracent toute la tradition claviériste en Allemagne à la moitié du 15e siècle, donc une tradition très très riche, et donc qu'on a développé, et c'était peut-être notre fil conducteur au-delà d'autres projets pendant toutes ces années, pour lequel on va faire maintenant ce deuxième disque, et un troisième qu'on espère en suivant avec ce répertoire des musiques anglaises du 16e siècle.
Das Mayen sieht die Fürte daher, donc de ce disque Meister ob allen Meistern, Guillermo Pérez, l'ensemble Tasto Solo avec vous, également David Catalunya, au clavicembalum, mais cette fois-ci à plectre, c'est votre disque paru en 2008, consacré à ce maître des maîtres, hein, c'est la traduction littérale, Konrad Paumann, milieu du 15e siècle, et c'est le premier recueil de clavier, orgue clavier, allemand, donc au 15e siècle, 250 pièces qui empruntent justement aux chansons les plus populaires de l'époque, avec dans ce disque l'organetto, clavicembalum, la harpe. Est-ce qu'il n'y aurait pas l'idée, je crois que vous l'évoquez dans le livret, de reconstituer par un consort de clavier ce que serait le grand orgue, ou c'est un peu comme équivalence, un petit peu limité?
Non, nous, l'idée, c'était déjà expérimenter autour des mélanges des claviers. Ouais. En partant déjà de ce qui avait été un peu la base de l'ensemble, le travail que j'ai fait avec David, du fait que moi, en tant qu'organettiste, il y avait plein de choses pour lesquelles j'avais besoin d'un ténoriste, de quelqu'un qui m'accompagne, ce qui d'ailleurs est très documenté à cette époque-là, des couples de deux musiciens dont un va tenir le dessus et l'autre la partie grave, le ténor. Et du coup, on s'est retrouvé à faire un duo, une association de deux claviers, déjà en soi un peu originaux, un clavicembalo et un organetto, et sur cette idée-là, de pouvoir expérimenter sur d'autres combinaisons des claviers et sur les langages en général clavieristes à cette époque-là. Donc le travail de l'ensemble, c'était un pari artistique, de recherche, où, on va dire, c'est une façon de lancer des idées, de les creuser, mais aussi, c'est pas des affirmations, c'est toujours dans le terrain expérimental, bien entendu avec une base historique.
Alors on va se quitter avec vous, Guillermo Pérez, David Catalunya, dans Retour donc à l'Angleterre, avec une pièce de Cooper, donc tout début XVIe siècle. qui sera enchaîné avec une pièce anonyme. Et donc, pour refermer cela, c'est vrai qu'il y a, je me rappelle aussi, David Catalunya, une grande tradition de clavier en Angleterre dès la fin du XIVe siècle, avec des mentions, je crois qu'on trouve même chez Machaut, on aurait peut-être dû commencer par là,
effectivement.
De échiquier checker, le mot checker, avec deux K.
L'échiquier d'Angleterre.
L'échiquier d'Angleterre, dit. Voilà, qui fait référence à un clavier d'Angleterre. Mm-hmm, quoi.
Effectivement.
Alors, cette tradition donc, remonterait à cette mention donc, de 1360, mais donc bien avant, en réalité, à partir du moment où on commence à en parler. Un grand merci à vous, Guillermo Pérez.
Merci.
Merci David Catalunya.
Merci à vous.
L'ensemble de Tasso Solo, donc pour refermer ce matin des musiciens, de Cooper, I Have Been a Foster. Thank you. I have been a foster in the short measure répertoire début 16e siècle anglais interprété pour nous et pour vous, pour refermer l'or matin des musiciens, l'ensemble Tasso Solo, Guillermo Pérez à l'organetto et David Catalunya au clavicymbalum, un marteau. Un très très grand merci à eux. On vous met bien sûr toutes les informations de date de concert sur le site de France Musique à la page du matin des musiciens, mais vous pouvez aussi retrouver ces informations sur leur site tastosolo.com. Vous enregistrez votre disque en juillet et vous serez en concert un petit peu partout en France, notamment en août. Cette émission a été réalisée par Claire Lagarde. Laura Jachimiak m'a aidé à la préparer, avec aujourd'hui la prise de son et au mixage, Julien Douminc et Nicolas Slimani. Passez un très bon lundi, je ne vous dis pas à la semaine prochaine, mais surtout passez de très très bonnes vacances. Merci d'avoir été fidèle au poste pour ce matin des musiciens. Bel été et surtout, ciao, bye bye.